Allez, on passe tout de suite au marché. Les marchés cette semaine, bon, c'était un peu mou du genou hein, sur le Nasdaq, le S&P. Par contre, depuis le début de l'année, c'est quand même la fête. Hein. Nasdaq en hausse quand même de 10% toujours. Le CAC en hausse de 4%. Le Nikkei 40% de hausse. On parle même pas de l'indice de Corée. On en a parlé en première partie d'émission. Je voudrais juste revenir, je vais me retourner vers vous, Romain. SpaceX, je sais que c'est pas votre domaine. Je sais que vous regardez pas ça. Mais quand même, quand vous voyez 100 fois le chiffre d'affaires, introduction 2000 milliards, 1750 milliards, ça atteint 2000 milliards, tout ça sur un seul homme, avec un narratif, avec une boîte qui perd de l'argent, qui a probablement du potentiel, le gars est un génie, avec 1000 milliards de valeurs qui sont créées en 3 jours, et puis 1000 milliards qui s'évaporent en 3 jours. Vous, qui êtes un vieux de la vieille comme moi des marchés, vous vous dites quoi ?
Ben moi, je regarde les cours de SpaceX tous les jours, même parfois 2-3 fois par jour, non pas parce que j'en ai, mais parce que c'est un baromètre de l'état de spéculation sur les marchés. Et c'est vrai que vous parlez de génie, les investisseurs sont beaucoup enrichis ces dernières années, et il y a vraiment un engouement des particuliers pour l'investissement en actions, et le montage de l'introduction en bourse a été fait pour permettre effectivement à ces investisseurs particuliers d'y participer, et permettre après, comme vous le savez, aux indices d'intégrer rapidement SpaceX dans des pondérations relativement importantes. Donc ça, c'est pour moi un vrai baromètre de ce qui se passe, de choses un peu extraordinaires sur un marché.
Mais vous êtes gérant, vous évaluez la valeur des entreprises.
Oui.
Vous dites ça, je sais pas faire.
Alors ça, à la limite, on aurait pu faire un petit pari sur SpaceX. Enfin, c'est pas notre rôle, hein, mais c'était quand même bien construit pour que ça monte.
Les premiers jours.
L'important pour SpaceX, c'est est-ce que ça baissera ça passera en dessous des $135 et est-ce que ça ira pas profondément. Donc, vous avez dit génie. Et en parlant de l'introduction de SpaceX et peut-être de son initiateur.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a un économiste, Galbraith, qui dit que le génie précède la chute. C'est-à-dire quand il y a un grand consensus sur un génie, sur une opération incroyable, sur un événement incroyable, on a eu 16 ans de marché haussier hein, depuis la crise financière. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes de marché, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, et ça s'accélère, on a eu les droits de douane, on a eu les droits d'Ormuz, et chaque fois les gens sont sortis avec encore plus d'enthousiasme, et donc les investisseurs sont très investis, les particuliers aux États-Unis, ils n'ont jamais été autant investis dans le marché des actions. On voit les transactions boursières des particuliers augmentent partout dans le monde, et on voit aussi des effets, des impacts à effet de levier. Donc les gens visent le levier. Donc on est dans une économie effectivement un marché où les gens sont très très confiants, très spéculatives, et où la valeur ne veut plus dire grand chose parce qu'effectivement il y a des dispersions de valorisation extrêmement fortes comme on les avait à la fin des années 90, au début des années 2000, entre les valeurs d'avenir et les valeurs du passé. Ouais. Hein, on avait dans les valeurs du passé, on avait des valeurs qui sont, et dans les valeurs d'avenir, des valeurs qui sont devenues aujourd'hui des valeurs du passé.
Hein. Ouais, qui ont disparu.
Donc, qui ont disparu, ou qui sont, les télécoms étaient supposés être des valeurs d'avenir, et puis c'est devenu des utilities.
Est-ce que vous êtes en train de nous envoyer un signal en disant il y a une bulle, elle va exploser?
Alors, il y a une bulle, ça c'est clair. Ben, pour moi, c'est clair qu'il y a une bulle. Toutes les questions des bulles, alors, vos auditeurs veulent savoir ce que c'est qu'une bulle, il faut qu'ils regardent, qu'ils lisent ce Absolument. Petit livre. Ouais. C'est un petit livre qui est pas très important, Absolument. Brève histoire de l'euphorie financière. C'est quelques exemples, et surtout c'est un livre qui étudie les phénomènes passés de bulles et la psychologie des acteurs. Et la psychologie des acteurs, c'est souvent de considérer que les gens qui sont puissants, qui ont de l'argent, sont beaucoup plus intelligents financièrement que les autres. Et nous sommes tous puissants avec de l'argent, mais nous savons que nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Nous avons parfois plus d'intelligence ou plus de recul, et c'est une manière de gérer. Donc effectivement, on est dans un environnement qui est un environnement un peu dangereux. D'ailleurs, Trump s'en aperçoit bien. Chaque fois que la bourse baisse, il fait en sorte de prendre des mesures pour qu'elle remonte, et il lâche du lest, notamment on l'a vu dans la guerre en Iran, s'il avait pu obtenir...
Est-ce que vous nous dites quoi, alors? Vous nous dites, moi je suis petit actionnaire, je regarde des missions, j'écoute Romain Burnand, je fais quoi? Je sors de la bourse.
Alors, je sors pas de la bourse.
Je vous entends, ça fait peur. Parce que, on se dit, OK, parce que je comprends le raisonnement de dire, il y a des boîtes qui sont pas chères, et puis il y a des boîtes qui sont chères, et si celles qui sont chères qui vont exploser. Mais on avait vu en 2000 que quand tout a explosé, tout a baissé, même les bonnes valeurs fondamentales.
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Alors, tout n'a pas baissé. Okay. Au contraire, en 2000, c'était le cycle de la croissance hein, qui explosait en vol. Et les investisseurs value ont eu une performance. Alors, ils ont en 2000, hein, ils ont plutôt maintenu le capital.
Si okay. hein,
donc, c'est, tout n'a pas explosé. Au contraire. Et on voit dans les séances où le marché aujourd'hui, ben, par exemple aujourd'hui, hein,
vendredi,
ou ouais. ces jours derniers, quand le SpaceX baisse ou dans les microprocesseurs baissent, les valeurs un peu traditionnelles, style Danone, style Vinci, monte.
Ah, d'accord. Hein,
donc vous avez toujours un arbitrage entre l'économie okay. de demain et l'économie d'aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui est assez. Donc je dis pas chose qui peut parce que les gens raisonnables partent trop tôt du marché.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a des bulles. C'est parce que tous les gens raisonnables qui ont dit qu'il y a une bulle, enfin qu'on est à la fin de la bulle, hein, il y a une bulle, mais la bulle elle peut gonfler. Elle peut
Petit continuer. Hommage à Alan Greenspan qui a disparu cette semaine. Mmh. Il avait quand même dit en décembre 96, il y a une exubérance irrationnelle. La bulle a explosé qu'en mars 2000. Hein.
Voilà.
C'était 4 ans en avance. Hein.
C'est un excellent exemple, effectivement. Les gens raisonnables le disent toujours trop tôt.
Excellent exemple. Vous avez compris pourquoi il revient.
Je reviens depuis 20 ans.
Mais voilà, vous avez compris. C'est quand même pas compliqué.
Quand même...
Je vais dire, il suffit de dire que je dis un truc intelligent et être d'accord avec moi.
Même remarquable. C'était même remarquable. c'est un hommage à Greenspan, tout en remarquant, en allant dans mon sens, franchement. tout va bien. Mais c'est toujours.
On va co-présenter l'émission à partir de la rentrée.
On l'a vu dans tous les cycles. Je sais pas si moi j'ai vécu comme analyste un cycle de immobilière en France. Qu'on a vécu dans d'autres pays, aux États-Unis. Je me souviens, un professeur m'avait dit, regardez les bulles, il y a des articles de presse comme quoi il y a une bulle, mais pourtant la bulle, elle éclate 3-4 ans
c'est
après.
Ça.
Il y a eu sur la bulle immobilière aux États-Unis, il y a eu ça. Sur la bulle immobilière en France, il y avait une tout le monde disait, c'est évident que l'immobilier monte, parce que tout le monde ne pourra pas se loger à Paris quand il y aura on est en train de créer l'Europe dans les années 90, voilà, tout le monde ne pourra pas.
Et on a eu
donc du coup, on en est dans des questions de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français pour acheter un mètre carré à Paris avait baissé de 50% en quelques années.
Ouais.
Et donc voilà, celui qui avait aperçu ça pouvait se dire, c'est pas le moment d'acheter. Donc on est.
Donc vous dites on est dans la bulle, mais on ne sait pas quand elle va éclater. Donc vous nous avez
on
pas,
est dans
beaucoup,
une bulle,
vous nous avez pas
bulle.
Beaucoup éclairé. Hein.
On vous a pas beaucoup éclairé parce qu'on sait qu'on est dans ce sentiment où la psychologie est très importante.
Pascal, vous dites quoi? Vous dites sauf qui peut.
Alors, juste, je voudrais revenir juste un instant sur les introductions en bourse, puisqu'il va y en avoir d'autres à venir. Vous avez cité un économiste, je vais en citer un autre. Moi, l'IPO, ça me fait un peu penser à Keynes, qui comparait la bourse à un concours de beauté. Et ce qu'il disait, c'est pas la plus belle qu'on va choisir, on veut deviner laquelle les autres vont choisir. Pour moi, l'IPO, c'est un peu ça. En fait, on va pas forcément, tous les investisseurs vont pas forcément aller analyser l'entreprise sur ses valeurs intrinsèques, mais c'est une perception finalement. Et c'est pas la même chose que quand on regarde les marchés au jour le jour. Et d'ailleurs, si vous regardez les 10 plus grosses IPO aux États-Unis par taille, un an après, elles sont toutes négatives. Le cours de bourse est négatif. C'est quand même impressionnant.
Et ce que mais si vous regardez à 4-5 ans, la plupart sont revenues en hausse.
Ça dépend desquelles.
Ah bah, quasiment toutes.
Moi, je vous redonnerai la statistique si vous me permettez de revenir.
Mais non, vous n'enverrez pas.
Ce qu'on constate aussi, aujourd'hui, les fonds de non-coté, ils sont quand même beaucoup plus popularisés. Il y a quand même beaucoup de ces entreprises qui créent beaucoup plus de valeur quand elles sont privées, dans le domaine privé, que quand elles deviennent publiques.
Il y a un mec que vous allez énerver, là. Il ne faut pas dire ça à Romain Burnand, il ne faut pas lui parler de private equity, surtout en ce moment.
Non, mais c'est une réalité. Nous, ces boîtes-là, on avait
donc,
la chance de les avoir, notamment, sur les marchés.
Oui.
Non, pas sauf qui peut sur les marchés. On a 4 ans, a priori, si j'ai bien retenu la leçon, avant que la bulle éclate. Pas sauf qui peut sur les marchés, parce qu'aujourd'hui, on a quand même toutes les forces qu'on a évoquées avant. Les investissements, la vaguilla, etc. C'est quand même bien réel, ça fait de la performance en bourse, et il y a encore beaucoup de perspectives. Donc non, on n'est pas du tout en sauf qui peut. On n'est pas non plus à prendre des risques inconsidérés, mais notre exposition action, elle est encore légèrement surpondérée aujourd'hui.
Ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, d'habitude, on a le macro d'un côté, et puis la bourse de l'autre.
Exactement.
Et là, en fait, vos deux sujets sont incroyablement liés, parce que votre sujet à vous, les taux d'intérêt, la croissance, dépend d'eux.
Maintenant, nous, en comité taux, on regarde les actions. Il y a toute une partie maintenant
dingue,
dans notre comité où on étudie parce maintenant qu'est-ce qui se passe sur les actions. Vraiment, j'ai dédié une partie du comité au marché actions. Ce qui est pour moi intéressant et ce que je retiens, c'est la cyclicalité de l'économie américaine est aujourd'hui extrêmement importante. Le potentiel de hausse, le potentiel de baisse de cette économie est important. Tous les acteurs économiques aujourd'hui sont extrêmement engagés. Les montants d'investissement sont colossaux pour l'année prochaine, c'est 3% du PIB. Les ménages américains Européens sont très très investis en actions. Ils ont 40% de leur patrimoine qui est en actifs financiers. Les entreprises, ces grandes entreprises de la tech, prennent aussi beaucoup plus de risques. Elles ont changé de modèle économique.
Elles empruntent de l'argent alors qu'elles avaient énormément de trésorerie.
Elles avaient énormément de trésorerie, pas de capital. Elles rachetaient leurs actions. Aujourd'hui, elles investissent massivement, ont des besoins de financement colossaux sur le marché actions, sur le marché de la dette. Et on a aussi l'État américain qui est aussi très lourdement engagé dans cette course à l'IA avec des niveaux de déficit élevés. Donc aujourd'hui, pour moi, ce que je veux mettre en avant, il y a une bulle ou pas bulle, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des déséquilibres importants. Mais c'est pour moi, l'économie entière américaine est engagée.
Vous êtes d'accord avec ça, Denis? Ça devient de la macro?
Ça devient de la macro, oui, tout
vous,
à fait.
Vous qui connaissez rien à la bourse, vous regardez la bourse. Vous regardez.
Je ne comprends pas. Des actions, des obligations.
Mais vous regardez maintenant. Vous êtes obligé de l'intégrer maintenant dans vos modèles.
Oui, tout à fait. Oui, bien entendu. Parce que, en fait, ça a créé des phases de rupture. Et je vais faire mon pédant et à mon tour, je vais ajouter une référence bibliographique. C'est vraiment Carlota Pérez. Je pense que c'est vraiment l'auteur qui est utile pour comprendre ce qui est en train de se jouer.
Valentine, il faut que vous en trouviez une.
C'est les thèses évolutionnistes qui disent qu'il faut passer par une phase d'éclatement de bulle. Après, il y a une phase d'exubérance. Quand vient une nouvelle technologie, quand vient un changement des modes de produire, il y a une phase d'exubérance qui se traduit par des emballements qui n'ont aucun sens. À un moment, il faut purger, mais ça n'empêche que parce qu'il y a cette purge qui intervient, à un moment, se révèlent ceux qui structurent l'organisation des techs. C'était exactement ce qui s'était passé dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'on a eu une explosion des valeurs tech.
Vous n'êtes pas rassurant, tout ça.
Chute de la valeur, et puis à la fin, mais quelles étaient les plus grosses capitalisations? C'était Google, c'était Apple. Et donc, il faut passer par des phases où se fait le tri entre les bonnes solutions. Et là où il y a un problème, c'est que dans l'intelligence artificielle, il y a une versatilité qui est incroyable. Il y a un an, c'était ChatGPT, après c'est Gemini, maintenant c'est Claude, qui est la bonne...
On peut aller plus loin que ça, parce que Romain, vous parliez de ces fonds spéculatifs, ils étaient sur Bitcoin, il fait plus rien, hein. Il est même descendu en dessous des 60 millions. On a l'impression que l'argent se déplace du truc le plus chaud de la semaine, c'est-à-dire que c'était les big tech, après c'est SpaceX, maintenant il est sorti de SpaceX, parce que maintenant c'est revenu au cours d'intro, on ne sait pas sur quoi il va aller, ça c'est quand même...
C'est dans votre bouquin, ça ? Alors, c'est pas dans le
bouquin. C'est pas vous qui l'avez écrit.
C'était en 90 par John Calbraith, qui est un spécialiste de la crise de 1929. Non, on l'a vu sur la défense.
Ouais.
Vous voyez, le règne métal, tout le monde visait la défense, souveraineté, Rheinmetall est 2 et 50% plus bas que son cours le plus haut, après avoir baissé 20% cette semaine.